Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Notre invité ce soir est passé par toutes les formes de popularité. Ce sont d'abord les fans de foot qui ont fait connaissance avec ce chambreur qui s'est fait remarquer en jetant à la rivière le politiquement correct, le foot mais aussi le tennis d'ailleurs, hein, qu'il aime pour et par Roger Federer. Puis il a ému le pays quand il s'est battu pour sa survie après une double greffe rein-foie. Enfin, accusé à minima de sexisme et de dérapage, il a pris un carton rouge ces derniers mois. Ce soir, Pierre Ménès est dans Hors-Piste.
Hors-Piste. Thomas Soto sur France Inter.
La Coupe du Monde ne les fait pas, l'arbitrage, il est lamentable.
Oui.
Vous l'aviez senti, vous êtes arrivé lundi et vous saviez que votre équipe de Marseille allait la gagner.
On a tout fait pour, mais on avait peur de décevoir. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, on sentait que les gens nous sentaient favoris. On avait tellement peur qu'ils soient déçus.
En tout cas,
je suis tellement content.
Eh bien Bernard, ce qu'on disait à Raymond tout à l'heure, merci. Merci de nous avoir donné cette Coupe d'Europe.
Il est où ? Il est où ? Il est où, Hervé ? Bien où ?
Salut Pierre.
Ah bah t'as fait vite pour venir ici mon miaou. T'as mis tes bottes.
Quelles bottes?
Eh hey, tes bottes de saboté mon miaou.
Quand un puissant journaliste sportif s'adonnait à des agressions en public, Pierre Ménès, chroniqueur foot sur Canal+, avait il y a quelques années embrassé de force une consoeur en direct et soulevé la jupe d'une autre devant le public de l'émission. Accusation coupée dans un documentaire sur le sexisme de la profession diffusé sur Canal.
Sur le moment, je l'ai pas du tout vécu comme une agression sexuelle parce que c'est le terme que j'entends et qui est employé sur les réseaux sociaux. Mais je l'ai vécu comme une humiliation.
C'était comme un smack qui va te salir non plus, tu vois, faut se calmer aussi, quoi. Si tu peux pas faire un bisou sur la bouche à une copine, oh, au secours, quoi.
Et il y a quel pourcentage de filles pour un mec?
Ça dépend du mec, ça.
Ah oui, d'accord, oui.
Il m'a dit monte à Paris un 27 décembre et depuis ce jour-là, on s'est plus jamais quitté.
Enfin, ça s'est fait naturellement.
Tu débarques?
Ah mais il est arrivé comme Pierre Ménès, moi je le connaissais pas, je l'ai jamais vu, mais il se prend pour qui lui? Vas-y, redescends. Lui.
Faut aussi prendre les gens comme ils sont.
Et la Chintoc, vieux, la petite hôtesse, elle est maquée?
Ouais, elle est avec moi.
Et sa copine, la frisée?
Elle est maquée aussi avec moi.
Ah bon.
Je veux dire, moi je veux bien qu'on me dise que je suis raciste, mais mon beau-père est noir, ma femme est métisse. Je suis très très intime avec Valérie Pécresse.
Ouais, alors ça on allait en parler.
Qui est une femme formidable, qui fait ce qu'elle dit, qui dit ce qu'elle fait. On est amis de la Baule parce qu'on a une maison tous les deux à la Baule, on se voit souvent. J'ai été la soutenir quand elle était en campagne pour la présidence d'Île-de-France. Du coup, elle m'appelle le talisman.
Un témoignage maintenant. Regardez, vous connaissez sans doute son visage. Il s'appelle Pierre Ménès. Il est chroniqueur sportif à la télévision, célèbre pour ses critiques sans langue de bois. Une belle vie et brusquement, tout s'arrête. Hémorragie interne. Pierre Ménès est un miraculé. Il n'a été sauvé que par une double greffe de foie, de rein. La mort de quelqu'un m'a donné la vie.
J'imagine que les gens sachent que les organes de leurs frères, de leurs pères, de leurs fils, soit en moi maintenant et qui me voit à la télé, et puis qu'en plus ils m'aiment pas, ce con-là, il est encore en vie parce que il a les organes de mes proches. Je pense que ça doit être très très dur à vivre, quoi.
C'est fait! C'est
bravo
fait!
Roger.
Incroyable!
Bravo Roger, à genoux sur la terre! Ouais, et sous vos yeux, il pleure, il craque, il s'appelle Roger Federer.
Bonsoir et bienvenue dans Hors-Piste, Pierre Ménès.
Salut Thomas.
Quand j'ai dit autour de moi que je vous avais invité ce soir, beaucoup de gens m'ont dit « mais t'es malade, pourquoi tu donnes la parole à ce mec-là » Alors avant de rentrer dans le détail, spontanément, je voudrais savoir ce que ça vous fait que des personnes réagissent comme ça à la simple évocation de votre nom aujourd'hui.
Ça me fait beaucoup de mal, ça me peine terriblement parce que j'ai pas le sentiment de mériter ça. Mais j'ai pas, ça va te décevoir, mais j'ai pas super envie d'en parler parce que tout a été dit... inventé, enjolivé, pourri dans cette histoire, et que moi, revenir une énième fois dessus, c'est toujours donné là. Enfin, il y a un truc que j'ai appris avec ça, c'est quand tu te justifies, tu t'excuses. J'ai plus envie ni de me justifier, ni de m'excuser.
Mais on va pas passer évidemment l'émission là-dessus, mais Ce qui a peut-être un peu choqué, c'est que vous avez pas, on n'a pas eu l'impression que vous étiez justifié ou expliqué justement. Est-ce que vous regrettez ces faits qui vous sont reprochés? Pour ceux, en tout cas, qui ont été visibles à la télévision, quand vous embrassez une chroniqueuse de force.
Les faits, quand c'est sorti, le document de Marie.
Marie Portolano.
Ouais, le baiser à Isabelle Moreau avait 10 ans.
Ouais.
Et le baiser à Francesca avait 7 ans.
Ouais.
Les deux trucs tournaient en boucle sur YouTube depuis, sans qu'il y ait jamais eu un commentaire, une critique. Et c'est devenu un crime contre l'humanité à partir du 21 mars 2021. J'ai été un petit peu désarmé par ça, quoi.
Mais est-ce que 7 ans et 10 ans après, vous dites pas c'est une connerie, en fait, ça se fait pas? Ou...
Alors, je voudrais quand même différencier les deux baisers. Effectivement, quand je vois celui à Francesca, ça me choque.
Ouais.
Je me dis que c'est pas bien.
Ça, c'est en 2011. Hein.
Ouais, je vois qu'elle est pas à l'aise. Voilà. Je regrette. Celui à Isabelle, je suis désolé, mais bon, tu m'y obliges à revenir dessus. Je peux pas le regretter. D'abord parce qu'il est pas volontaire. Je suis allé pour l'embrasser en lui offrant des fleurs. En général, quand tu offres des fleurs à une fille, c'est pas parce que tu l'aimes pas, ni pour lui manquer de respect. Et elle a mis son bras autour de mon cou, et voilà, et puis on s'est embrassé, et puis j'ai pas eu le sentiment derrière qu'elle était baissée. Puis c'est surtout qu'elle ne m'en a jamais parlé. Mmh. Elle aurait pu me dire à la sortie de l'émission, Pierre, c'est pas bien, et on serait expliqué, mais moi tout m'est tombé sur la gueule 10 ans plus tard. Entre ça, le baiser à Francesca et la jupe de Marie. Tout m'est tombé sur la gueule.
Mais ça veut dire que c'est, dans votre esprit, c'est vous la victime aujourd'hui? Vous êtes victime de tout
non,
ça?
Non, je suis pas victime. Disons que c'est tombé au mauvais moment. C'est tombé en même temps que les accusations pour Patrick Poivre d'Arvor, Richard Berry, Duhamel, tout ça. Donc il y a une sorte de...
On a présumé innocent d'ailleurs. Hein Richard Berry, enfin, ce sont des accusations. Il n'y a pas encore eu de procès. La justice n'a pas parlé.
C'est quoi le mot que tu viens de dire?
Je dis présumé innocent.
Ça, c'est un truc qui m'est étranger, ça. Ouais. Alors là, moi, j'ai été jugé, condamné, exécuté. Je rappelle qu'il y a, à tout le moins, qu'il n'y a pas de plainte, qu'il n'y a pas d'enquête judiciaire. Mmh. Mais moi, j'ai été condamné et je suis encore aujourd'hui jugé comme le pervers de base.
Et vous vous en voulez pas du tout? À vous?
Je m'en veux du baiser à Francesca.
Ouais. Vous le lui avez dit?
Oui. Oui, parce que Hanouna l'avait invité le lendemain du truc et à la fin de l'émission, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassé et je lui ai dit que je regrettais quoi. Mm. Oui, Francesca, je regrette, je suis désolé, elle le prendra peut-être mal, mais Isabelle, je regrette pas. Et Marie, encore une fois, je suis désolé de dire que je m'en souviens pas, mais en même temps, quand je dis que je m'en souviens pas, je me souviens de rien, je me souviens pas de l'émission. Je me souviens pas que c'était Griezmann l'invité. Je me souviens pas de pas être resté au débrief. Je me souviens pas que c'est Mélissa, ma compagne, qui m'a ramené à la maison. Je ne me souviens de rien.
Et vous comprenez que ça trouble quand on vous entend dire ça?
Que je me souviens de rien? Mais est-ce que les gens se rendent compte de l'état dans lequel j'étais à ce moment-là? C'était la dernière émission avant que je parte en maladie pendant 7 mois. 3 semaines avant cette émission, j'étais à l'hôpital de Saint-Nazaire, parce que j'avais fait un coma à cause d'une encéphalopathie. Des encéphalopathies, entre celle-ci qui m'a emmené à l'hôpital début août et ma greffe, j'ai dû en faire 10. Alors, l'encéphalopathie, ça va de propos incohérents, de gestes incohérents, de perte de mémoire, voire de coma. Donc, moi, quand j'ai été voir mon médecin, que je lui ai dit ce qu'on me reprochait et la date, il m'a dit, mais les gens se rendent compte de l'état dans lequel vous étiez.
Mmh. Ça excuse pour vous?
Ah bah si j'ai été victime d'une encéphalopathie à ce moment-là, ouais. Oui, ça excuse. Ouais. Mais visiblement, c'est pas recevable, c'est une excuse à la con.
Est-ce que peut-être, 7 ans, 10 ans plus tard, vous n'avez pas manqué un peu d'empathie quand tout ça est sorti au mois de mars? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu être un peu moins Pierre Ménès et dire, ok, peut-être que si ça a blessé, c'était inapproprié, c'était...
Mais quand Marie me dit ça, elle m'a même pas prévenu avant.
Donc c'est Marie Portolano qui a fait ce documentaire, je ne suis pas une salope, je suis une journaliste.
Prévenu, elle me dit ça à l'antenne.
Ouais.
Moi je suis interloqué, stupéfait. En plus je ne sais même pas, à ce moment-là, de quand datent les faits. Donc... Voilà, mais bon, j'en ai déjà... Moi, si j'ai fait du mal, évidemment que je le regrette, hein, mais encore faut-il qu'on me prenne au moins le soin d'écouter un peu ce que je dis, quoi.
Donc il y a zéro provoque à la Ménès dans tout ça. Il n'y a pas aussi ce plaisir que vous avez parfois à faire scandale quand vous parlez de foot et vous n'avez pas mis, entre guillemets, le même logiciel dans le traitement de cette affaire ?
J'avais pas mis le même logiciel lorsque j'ai été la première personne à la télé à créer un talk show de foot avec que des filles. Mais ça, alors, ça s'est passé au pain de ses profits, ça. C'est, tout le monde l'a oublié, tout le monde s'en fout. Mmh. En même temps, personne ne le regardait, donc ça devait jouer aussi. C'est une période difficile, hein, moi qui suis habitué au grand combat. Là, j'ai eu un grand combat qui était finalement perdu d'avant.
Ce qui est très étonnant, Pierre Ménès, c'est que vous avez l'air sincèrement touché, blessé, abîmé par par tout ça.
Oui.
Et en même temps, on vous a entendu, encore une fois, au mois de mars, au mois d'avril, quand tout ça est sorti, un peu fanfaronné, quand vous dites 10 ans pour se plaindre d'un smack, quand même, c'est...
Ben, c'est long, quand même. Vous ne trouves pas que c'est long? 10 ans?
Mais est-ce que c'était la bonne réponse à... Et c'est marrant parce que
je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais c'est les faits. On m'a parlé de ça 10 ans plus tard. Mmh. Je suis désolé de le dire. On m'a parlé de ça 10 ans plus tard.
Alors, il y a eu une chasse à l'homme. Ça, c'est Marie Portolano, donc, qui a réalisé ce doc, qui l'a dit. Elle a déploré que cette chasse à l'homme vous vise. Elle s'est presque retrouvée à vous défendre en précisant que vous n'étiez pas coupable de l'intégralité du sexisme en France. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ça?
Ça fait pas grand-chose.
Ouais.
Le mal était fait.
Donc, vous lui en voulez à elle, pour le coup?
Je pense que si elle m'avait dit, avant le tournage, on va faire cette émission, je vais parler du jour où t'as soulevé ma jupe, je lui aurais dit, mais Marie, je m'en souviens pas. C'était quand? Que peut-être la tournure de l'interview aurait été différente, ou peut-être qu'on l'aurait pas faite.
Ça dit quoi de l'époque, là, tout ce qui s'est passé autour de vous? C'est qu'il y a eu un changement d'époque et que certains n'ont pas compris?
Ça non plus, j'ai pas le droit de dire que les temps ont changé. Hein. Attention, hein, c'est très, c'est caca.
Dites ce que vous pensez.
Non, mais c'est caca de dire que l'époque a changé. Il y a 10 ans, Jean-Marie Bigard, il remplissait le Stade de France en faisant le lâcher de salope. C'est évidemment inenvisageable aujourd'hui. Je dis pas que c'était bien, je dis pas que ça me faisait rire d'ailleurs. Mais ça dit... Moi, je sais pas, moi, je regarde l'actualité, je regarde toutes les nouvelles. Tout est interdit, tout est restriction, tout est demande d'effort. Aujourd'hui, à Paris, on n'a pas eu le droit de rouler à plus de 30 à l'heure, quand on peut rouler à 30 à l'heure.
Là, vous mettez un peu tout dans le même sac, quand même.
Oui, je mets tout dans le même sac, oui. C'est que, aujourd'hui, tout choque tout le monde et on ne raisonne qu'en interdit supplémentaire.
Vous avez l'impression d'avoir été condamné à perpétuité socialement?
Non, parce que j'ai eu beaucoup de soutien anonyme. Hein. De toute façon, moi, je disais aux gens, et les gens qui me disaient, je vais te soutenir, je disais, non, me soutiens pas, tu vas t'en prendre plein la gueule, laisse passer la déferlante, ne me soutenez pas, appelez-moi, dites-moi que vous m'aimez, dites-moi que vous pensez à moi, dites-moi que vous savez que je suis pas comme ça. Mais... Si je dois te garder un truc de ça, c'est dire que je suis trop franc. Je suis trop franc. Et Mélissa me le dit souvent.
Votre compagne?
Ouais. Elle me, bientôt ma femme, parce qu'elle veut toujours bien m'épouser. Donc.
Elle a compris, elle a accepté tout ça, elle?
Tout. Elle a totalement pris ma défense. Totalement. Parce qu'elle sait comment je suis. Elle me le reproche parfois. Elle me dit, t'es trop grossier, t'es trop vulgaire, t'es trop... T'es trop familier. Elle a raison. Je suis trop familier, mais j'ai toujours été comme ça. J'ai été embauché par Canal parce que j'étais comme ça.
Et vous avez quitté Canal, du coup, après cette affaire?
J'ai quitté Canal. On m'a fait quitter Canal 11 ans après, oui. Oui, je pense que je ne peux plus. Quand je suis arrivé et que ton assistante m'attendait, elle a des yeux magnifiques. J'ai dit, elle a des yeux magnifiques, je lui ai pas dit. Avant, je l'aurais dit. C'est un exemple.
Pierre Ménès, comme tous les invités dans Orpiste, vous avez eu le droit de choisir un disque, un titre, et vous avez eu envie d'écouter...
Ça va surprendre, ça, je pense.
Bring Him Home, de John Howes Jones. C'est un extrait de la comédie musicale Les Misérables. On l'écoute et après, on va voir pourquoi ça surprend. Always been there.
son I might have known. If God had granted me a son, and the summers die one by one, how soon they fly on, and I am old and will be gone. Bring him.
Un extrait de la comédie musicale Les Misérables. C'est le choix de Pierre Ménès qui est dans Hors Piste ce soir. Pourquoi ce choix ?
Parce que je ne suis pas un grand féru de musique et que cet opéra rock me bouleverse depuis que je l'ai vu. Mon ancienne compagne m'avait fait prendre des billets au Châtelet pour mon anniversaire. C'était pendant une Coupe du Monde, donc c'était il y a 11 ans, quoi. Et c'était James Howard Jones qui chantait, qui est le plus grand Jean Valjean de toute la... Et je suis tombé amoureux de cette comédie musicale que j'ai vue 5 fois. Donc une fois au Châtelet, 3 fois à Londres et une fois à New York. Faut savoir que c'est un opéra rock français, hein, qui est de Claude-Michel Schoenberg, qui a jamais trop marché en France. Et la version anglaise tourne en boucle depuis 25 ans à Londres et à Broadway.
Pourquoi vous avez dit ça va surprendre comme choix quand j'ai annoncé le nom du titre que vous avez choisi?
Bon, parce que c'est assez surprenant comme choix. C'est pas la musique qui vient à l'esprit tout de suite.
Ouais.
Mais j'aime beaucoup l'opéra. J'ai eu la chance de voir 2 fois Pavarotti dans ma vie. J'aime beaucoup ça.
Bring him home, ce qui veut dire ramenez-le chez lui.
Oui, c'est la prière qu'il fait sur les barricades.
Quand Marius est blessé, hein, voilà. 1789, il prie Dieu d'en prendre soin et il dit qu'il est prêt à donner sa vie pour sauver Marius. Vous nous faites écouter ce très bel extrait des Misérables et quand le journal suisse Le Temps écrit sur vous, il pense plutôt à une autre chanson.
Ses copains, mais rarement sa famille. Bien gonze mine de rien, qui a marié ma frangine. Depuis c'est mon beau-frère, alors faut faire avec. Mais c'est pas une affaire, vu que c'est un sacré pauvre mec. Mon beau, il lui a fait 4 gosses pour toucher les allocs. Il fait le coup de la nuit de noces dès qu'elle est plus en cloque. Cette espèce de trou duc qui a fait 10 ans de légion. Les mômes, ils les éduquent à grands coups de ceinturon. Le jour où les cons iront pointer, on le verra au bureau d'embauche. M'embauche.
Le Temps, qui écrit de vous, Pierre Ménès, donc il incarne une certaine idée de la beaufitude franchouillarde. Vous le revendiquez, vous le jouez, ça, c'est votre personnage ou c'est eux qui sont snobs et ça vous blesse?
Ni l'un ni l'autre. Ça ne me blesse pas et je ne me considère pas comme ça.
Mais ça vous laisse vraiment indifférent? C'est marrant, en vous ayant en face de moi, j'ai du mal à le considérer que ces critiques ne vous touchent pas, que ces attaques ne vous touchent pas.
Non, alors Thomas, il y a plein de critiques qui me touchent, et on en a parlé en début d'émission. Il y a plein de choses qui m'ont touché profondément, durement, à des points où je me posais des questions sur mon avenir. Ça, non.
Ça veut dire quoi, vous posez des questions sur votre avenir?
Je me suis un peu demandé, à un moment donné, si la vie méritait d'être vécue, oui. Et je me suis très rapidement engueulé de penser ça. Je me dis, Pierrot, il y a 5 ans, tu t'es battu comme un chien pour survivre. C'est pas des calomnies, des mensonges et de la méchanceté bête et crasse qui vont avoir ta peau. T'es plus fort que ça, tu vas te battre, tu vas revenir et tu vas fermer les bouches à tout le monde.
Ceux qui ne vous ont jamais raté non plus, ce sont les guignols de Canal à l'époque.
Et il est où? Et il est où? Et il est où, Hervé Miaou? Le con.
Ah, Pierre Ménès, c'est ça.
Pierre Viteur.
Vous pensez que Marseille joue sa saison ce soir?
Oh le con, il me demande si l'OM joue sa saison. T'as entendu, Miaou?
Oui, j'ai entendu, oui.
Eh ben moi, je pense qu'ils misent tout sur le championnat. Ils ont 15 points de retard sur Bordeaux, tout est possible. Il y a d'autres questions sur ces Omoines?
Bah, j'imagine que vous allez regarder le match.
Bah non, on va lire des bouquins. Oh le con. Allez, viens, Miaou, on y va.
Mais j'ai pas fini, là. Vous allez où?
Oh non.
Et il va où? Et il va où? Et il va où? Hervé, viens.
Pauvre Hervé Matou, il a quitté TF1 pour Canal et se retrouve quand même à présenter Téléfoot.
C'est la première fois que je vous vois sourire depuis le début de cet entretien, Pierre Ménès.
Non, parce que quand mes enfants ont su que j'avais ma... Alors que je sois à la télé, mes enfants n'en avaient rien à foutre. Que j'ai ma marionnette au guignol, là, c'était un peu la Légion d'honneur.
C'est une marche importante sur l'escalier de la gloire, ça?
Ça l'a été, oui.
Ouais.
Malheureusement, ça n'existe plus. On a quand même fait la couverture du DVD annuel avec Hervé. Ouais. Donc, quand je voyais les guignols, ça me faisait rire et je voyais bien que c'était tout était outré. Donc ouais. À partir du moment où il y a eu ma marionnette, je me suis dit ben ça va être outré pour moi aussi. Puis voilà quoi. Le truc qui m'a fait le plus rire, c'est quand Jacques Chirac a dit la raison patapouf. Ça a fait ma joie pendant plusieurs minutes.
Vous regrettez vous que les guignols n'existent plus?
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
On les a fait taire les guignols?
Je crois pas.
Non.
Je crois pas. Je crois que c'était très 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 cher. Comme le Grand Journal, c'était très très cher. Ouais. Quand le groupe Bolloré est arrivé à la tête de Canal, il y a eu des choix économiques qui ont été faits. Et je suis désolé de le dire, les résultats financiers du groupe leur donnent raison.
Ouais.
Voilà quoi.
Après, on s'interroge sur le côté éditorial aussi de tout ça. Est-ce que on parlait de l'époque tout à l'heure? Est-ce qu'aujourd'hui, ils pourraient aller aussi loin les guignols que ce qu'ils faisaient il y a 5, 10, 15 ans?
Probablement pas.
Ouais.
Probablement pas, mais est-ce que c'est l'apanage de Canal+? Je crois pas. Je pense que ce serait le même phénomène s'ils étaient sur une autre chaîne.
Vous parlez de Canal avec beaucoup de prudence à cause du contrat de sortie que vous avez signé avec eux ou pas?
Non, je parle pas de. Non. Je parle pas avec beaucoup de prudence. Je parle avec beaucoup de nostalgie et d'affection. Ils se sont très très bien comportés avec moi, toujours, quand j'ai été malade. Je l'ai dit dans plein d'interviews, je le redis dans celle-là, j'oublierai jamais l'attitude de Canal. Quand j'ai été malade, j'oublierai jamais ce CFC, le retour avec tous les publics,
Canal
avec
Football Club.
Avec des t-shirts CFC Rebirth. Voilà, j'ai de la mémoire. J'ai de la mémoire, j'ai été le roi là-bas pendant 11 ans. Enfin, j'ai pas dit que je me prenais pour le roi, j'étais le roi, quoi. Les histoires d'amour finissent mal, mais ça m'empêche pas de garder beaucoup d'affection pour Maxime Saada, pour Gérald Brice-Rivet. Voilà, c'est des gens qui ont compté dans ma vie et c'est pas parce que ça s'est mal fini que je leur en veux ou que... Et c'est pas une question de contrat. Oui, évidemment, j'ai...
On lit que vous êtes parti avec un très gros chèque.
Oui,
on lit 500 000 euros.
Oui, c'est faux.
C'est faux.
C'est moins. Mais...
C'est beaucoup moins.
Hein?
C'est beaucoup moins.
C'est moins. On va pas jouer au juste prix.
Parce que ça doit pas être très loin de la vérité, alors j'imagine.
Je regrette. Hein, moi, je serais bien resté. Hein, j'avais pas du tout envie de partir, mais voilà, ils en ont décidé autrement. Et puis, je vais commencer une nouvelle étape dans ma vie professionnelle. Et puis voilà quoi. Mais je me retiens souvent sur Twitter pour prendre la défense de Canal sur certains sujets. Mais si je dis ça, ils vont me faire la même réflexion que toi. C'est parce que j'ai touché de l'argent que je les défends.
Vous confondez réflexion et question, Pierre Ménès. Ouais. Je voudrais vous faire écouter une musique à présent et vous me dites à quoi ça vous fait penser, quelle image ça fait naître en vous.
C'est la musique d'entrée des joueurs de l'OM au Vélodrome, Van Halen. Ouais. Et évidemment, là, ça me ramène à la mort de Bernard.
Ouais. C'était qui Tapie pour vous ? Votre Bernard Tapie ?
C'était une bonne relation, je ne peux pas dire ami. C'était une bonne relation. Moi, je l'ai connu quand le club avait été relégué en seconde division après les incidents de VAOM. Et je crois qu'il aimait, enfin je crois pas, je suis sûr qu'il aimait beaucoup mon franc-parler. Il m'envoyait souvent des SMS pendant le CFC, parfois pour m'engueuler, pour me dire que je prenais trop la défense du PSG ou machin. Mais bon, l'autre jour je suis retourné dans ses SMS et voilà, il était très très gentil avec moi et. Moi, j'ai été très très choqué par plein de choses le jour de sa mort. La une de Libération, enfin, qui me choque, c'est pas non plus inhabituel. Mais voilà quoi, quand le cadavre est pas encore froid, un peu de respect, un peu d'empathie, on peut dire ce qu'on veut de Bernard Tapie, mais c'était un mec qui avait des couilles énormes. Moi, j'ai toujours été intimement persuadé que c'était parce que c'était Bernard Tapie qu'il avait tenu aussi longtemps avec une maladie aussi grave. Et
vous aviez échangé sur vos maladies respectives ou pas ?
Oui. Oui, alors si tu quand moi j'étais malade, lui il était beaucoup moins.
Ouais.
Donc il y avait un problème de timing à ce niveau-là, mais c'est vrai que je pouvais lui témoigner ma solidarité parce que j'étais passé entre guillemets par là, puisque finalement moi à la fin ma cirrhose du foie s'est transformée en cancer. Donc mais bon, moi le cancer, on m'a dit on s'en fout, vous ayez un cancer puisqu'on va vous enlever le foie et vous en mettre un autre. Mais ouais, moi je le regrette profondément. Alors c'est un peu comme la mort de mon papa qui est mort d'un cancer aussi. Quand t'es préparé à ça, la douleur est plus diffuse. Elle est aussi intense, mais elle est plus diffuse.
Bernard Tapie, à qui vous avez un autre point commun, c'est les guignols. Ils ne l'ont jamais épargné non plus.
Ok, le nanar. À droite, à gauche, au milieu. Non, pas là. Là non plus. T'as perdu. C'est la combine à nanar. Être partout et être nulle part. Politique, business et foot. Nanar est tellement partout qu'il peut se planter nulle part. Jamais tricard, non jamais tocard.
Bernard Tapie, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'il adorait le foot. Et vous, au fond, comment vous l'aimez, le foot ?
Je ne l'ai pas aimé là, pendant ma période. C'est curieux, c'est quand j'étais mis à l'écart, j'ai commencé à pas regarder le foot. J'avoue très franchement que l'Euro de cet été, j'ai regardé les Bleus, j'ai regardé les plus gros matchs, mais bon, j'ai pas tout regardé. Quoi. Ouais. J'étais comme si j'étais un peu fâché avec le foot. Mais c'est vrai que pour avoir parlé de foot finalement assez souvent avec Bernard, il avait... C'était plus qu'un connaisseur, il avait les vraies idées, il avait les vraies opinions. Une analyse humaine sur les joueurs qui l'amenait souvent à avoir raison. Parce qu'on oublie, la dimension humaine du foot aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions qui parlent de tactique. Donc on a l'impression qu'on te parle d'un jeu d'échecs. Sauf que c'est des hommes quoi, qui jouent. Et que, on peut pas. Il y a le mal-être, il y a la confiance, il y a le doute, il y a les envies d'ailleurs. Il y a plein de choses qui font que la machine d'un joueur est une mécanique de précision et qu'elle peut se gripper très vite.
Vous dites que vous êtes un peu éloigné du foot ces derniers mois. Vous avez souvent dit que vous étiez ami avec plusieurs joueurs, hein, Hugo Lloris, Thierry Henry, Robert Pires, Blaise Matuidi, Mbappé, Bafé Gomis. Ils sont restés vos amis après ces derniers mois. Qui a été fidèle, qui ne l'a pas été ?
Bien sûr, bien sûr. J'ai eu des messages. Alors, je dirais pas que j'ai eu les messages de tous ceux que tu viens de citer, mais j'ai eu évidemment des messages de joueurs, même de joueurs avec qui j'avais pas de relation, comme on dit Delors. Donc, oui, le milieu du foot, le milieu du foot m'est resté fidèle. Ouais.
En tout cas, vous avez décidé de ne pas raccrocher les crampons et de lancer, ça sera mardi, une nouvelle plateforme qui s'appelle Pierrot le Foot, ça fait PFC, comme le Paris FC, pour ceux qui sont fans de ce deuxième club parisien. Le fait de plus jouer en Ligue 1...
Ça fait PLF, non ?
Paris, Pierrot... Ah ouais, ça fait PLF. Ah ouais, vous avez raison, ça fait pas du tout PFC, ça fait PLF. Le fait de plus jouer vraiment en Ligue 1 avec une grosse audience, ça vous chagrine un peu ou pas ?
Oui.
Ouais.
Oui, parce que moi je suis un commerçant. Quand je fais les choses, j'aime bien que ça marche.
Faut qu'il y ait du monde.
Faut qu'il y ait du monde. Donc le but du jeu sur cette plateforme, c'est qu'il y ait du monde.
Bon, pour y aller, c'est donc PLF et non pas PFC. Pierrot, ouais. Le foot. On va marquer une deuxième pause musicale dans Hors-Piste, le temps d'écouter Le Temps Passe, signé Emma Peters.
Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Souvent j'ai fait des blackouts trop alcoolisés. J'ai fait couler des larmes et ça je peux faire oublier. Mais là j'ai pas décidé. Depuis que tu m'as quitté, j'ai peur de tout oublier. D'oublier qu'on s'est aimé. L'odeur de tes draps froissés s'efface petit à petit. Et quand on me demande si je te connais, moi je sais plus dire oui. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt il y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Moi je veux pas que le temps passe. Je veux me rappeler de tes beaux yeux. J'ai peur que ta voix s'efface. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mes potes me disent de tourner la page et d'avancer. Mais quand le film est beau, je veux encore le regarder. J'encontre, change, j'oublierai. Les plans de nos scènes de cul dans la cuisine. Moi, je suis un peu brisée. Et toi, t'es un peu triste. Tout va se réparer. J'oublierai même que t'existes. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi, je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie.
Le temps passe d'Emma Peters.
Hors piste, Thomas Soto.
Hors piste avec Pierre Ménès. Pierre Ménès, il paraît que vous aimez aussi beaucoup l'art contemporain. Décidément, vous ne faites rien pour rentrer complètement dans votre caricature.
Non, je sais. J'aime l'opéra, j'aime Sacha Guitry, j'aime l'hyper-réalisme. J'ai beaucoup trop de tableaux selon les goûts de ma femme chez moi. Moi, je m'en fous des étiquettes, je m'en fous des moules. Je vis ma vie comme je veux. Là, tu vois, pendant que j'étais là, je répondais à une jeune femme dont le père vient d'être greffé du foie. Elle me posait une question. Il a été greffé il y a une semaine. Elle me posait une question. J'aime bien ce lien avec les, ouais, avec les malades.
En préparant cette émission avec l'équipe de Hors-Piste, on s'est souvent demandé, mais en fait, c'est qui ce mec-là? Qui vous voyez, vous, quand vous vous regardez dans la glace le matin?
Un mec sympa qui me fait rire.
Vous faites rire.
Oui, je me fais rire. Ouais. Et c'est très curieux, c'est que je fais pas tellement rire ma femme.
C'est pas c'est-à-dire bon signe.
Bah, non, c'est-à-dire, je me demande du coup comment je l'ai séduite. Mélissa n'est pas hyper sensible à mon humour.
Elle est sensible à quoi chez vous?
Je sais pas. Peut-être à ma sensibilité. C'est-à-dire quand on regarde un film émouvant tous les deux, on se scrute pour savoir lequel pleure le premier.
Et c'est vous souvent?
C'est souvent moi.
Ouais. Quel rapport vous avez à votre corps, Pierre Ménès?
Bah, ça dépend de quel corps on parle. Le corps que j'avais quand je suis arrivé à Canal où je pesais 165 kilos, le corps que j'avais 2 mois après ma greffe, 88 kilos, le corps que j'avais 3 ans après ma greffe, 120 kilos, le corps que j'avais après mon Covid, 108 kilos. Donc là, je suis plutôt aux alentours de 108 kilos. Que rapport. J'ai jamais, encore une fois, grâce en soi rendu à Canal, je me suis jamais considéré comme le gros de service.
Ouais.
Mais la question que je pose, c'est est-ce que une chaîne de télé embaucherait une femme qui fait 130 kilos? Moi, depuis Sonia Dubois, j'en ai jamais vu. Ouais. Il y a Laurence Boccolini, mais qui était dans un rôle très, très précis aussi.
Des femmes qui souvent maigrissent beaucoup quand elles arrivent à l'antenne. Je me permets cette question, Pierre Ménès, parce que lorsqu'on tape votre nom sur un moteur de recherche, il y a des petites occurrences qui apparaissent et immédiatement vous êtes associé à poids, vous êtes associé à gros. Et souvent, quand vos propos déplaisent, vous êtes attaqué sur les réseaux sociaux, sur votre physique.
De moins en moins.
Ouais.
Moi, j'ai été plus remplacé par pervers maintenant. Mais de moins en moins, je pense aussi que les gens s'adaptent aussi, ils voient que je suis bien moins gros que je ne l'ai été.
Oui.
Donc peut-être qu'ils adaptent leur merde à l'ambiance actuelle.
Oui. Vous avez énormément maigri quand vous avez été malade. On va parler de cette maladie que vous avez évoquée depuis le début de cette émission, la maladie du soda, hein, pour faire simple, voilà, qui a abîmé
la sclérose, la cirrhose, la Nash, cirrhose. Nash, oui. Non alcoolique, stéatose hépatique.
Ce qui vous a valu une double greffe foie rein, vous avez frôlé la mort. On vous entendait dire dans le portrait tout à l'heure, j'imagine. Les proches de ceux qui m'ont donné leurs organes, qui m'ont permis de vivre, s'ils ne m'aiment pas, ça doit être difficile pour eux. Est-ce que vous pensez souvent à ceux qui vous ont donné ces organes qui vous permettent aujourd'hui d'être là?
Souvent. Souvent. Pour être tout à fait franc, je pense très rarement à ma greffe.
Ouais.
Ça fera 5 ans en décembre, je n'en ai jamais rêvé.
Ouais.
Jamais. Je prends mes médicaments tous les matins et tous les soirs totalement machinalement sans me dire ah oui c'est les médicaments pour ta greffe et tout. Il y a qu'un truc depuis 5 ans. À chaque fois que je pisse, je me dis putain je pisse. Parce que j'ai pas pissé de juillet 2016 à septembre 2016 et j'ai pissé 2 jours après la greffe quoi. Et ça c'est le miracle de la médecine.
Vous avez pensé à un moment que vous alliez mourir?
Oui. Non. J'ai failli mourir, puisque j'ai été greffé, il me restait 3 jours à vivre. Ça, c'est les médecins qui me l'ont dit. Et quand je suis monté au bloc, ils étaient pas optimistes du tout. Mais moi, j'étais en train de m'éteindre comme une bougie. Je me rendais plus compte de rien.
Vous aviez plus conscience de ce qui vous arrivait?
Non, ouais. non.
La chanson qu'on écoutait tout à l'heure s'appelait Le temps passe. Je veux pas que le temps passe, chanter... L'artiste, quel est votre rapport au temps qui passe? Ou est-ce qu'il a été modifié par tout ce que vous avez vécu médicalement?
Je suis effaré d'avoir 58 ans. J'ai pas du tout l'impression d'avoir 58 ans dans ma tête, ni dans la manière dont je m'habille. Il y a certainement chez moi un refus de vieillir, mais bon, le refus de vieillir, il est bien gentil, mais tu vieillis quand même.
Il n'empêche pas de vieillir.
J'ai la chance de pas avoir de rides. Comme je dis souvent, faut faire des choix dans la vie. C'est gros ou ridé. J'ai choisi gros. Mais les cheveux blanchissent, le genou est foutu. Voilà, j'ai des problèmes de vieux, quoi.
Ouais.
Mais en même temps, mardi, le chirurgien m'a dit « Vous êtes trop jeune pour avoir une prothèse du genou ». J'ai pris avec assez de satisfaction le « Vous êtes trop jeune » parce que c'est quelque chose qu'on me dit de moins en moins souvent.
Pierre Ménès, c'est la tradition dans Hors Piste. On demande à l'invité de venir avec un objet. Qu'avez-vous donc apporté?
J'ai amené une de mes raquettes. Je dis bien une de mes raquettes, parce que, étant un très bon joueur, j'ai 6 raquettes.
D'où le genou, le tennis, tout ça.
Oui,
tout ça.
Oui,
tout
oui,
ça,
oui. Fracture du fémur côté gauche à 15 ans, 25 ans de tournoi de tennis derrière, que sur surface dure, parce que j'étais nul sur terre battue. Et bon, phénomène de compensation bien connu.
Ouais. Pourquoi vous avez choisi une raquette?
Ben c'est un petit peu en hommage à notre amour commun pour Federer, Thomas. Et c'est certainement une des choses qui me manque le plus, de ne plus jouer au tennis.
Ouais.
Parce que physiquement, je peux pas courir. Donc, c'est compliqué de jouer au tennis sans courir. Et c'est curieux parce que j'étais très 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 fort, mais très très fort en escrime jeune. Quand je me suis fracturé le fémur, je me suis aussi fait une quadruple fracture du poignet gauche, qui a sonné le glas de ma carrière d'escrimeur, et je me suis mis au tennis. Et j'ai pris infiniment plus de plaisir à faire des tournois de tennis que de l'escrime, où j'étais pourtant bien plus fort. Mmh. Voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup compté dans ma vie.
Au Club Med, hein, parce que vous avez été géo, vous avez fait trois saisons au Club Med.
Ouais, prof de tennis.
Prof de tennis.
Et c'est vraiment quelque chose qui a compté dans ma vie, et j'aimerais bien... puisque j'ai pas droit à la prothèse, les traitements comme a préconisé le médecin, j'espère qu'ils vont m'aider un petit peu à peut-être pouvoir un peu rejouer. C'est toujours un objectif dans le coin de ma tête. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que je suis comme toi, un amoureux transi de Roger, et je joue.
C'est la raquette de Nadal, ça.
Et je joue avec la raquette de Nadal. Ouais. Je joue avec la raquette de Nadal pour une raison très simple, c'est que la raquette de Roger, elle est injouable. C'est une planche. C'est une planche, quoi. Donc, alors que celle-là est quand même chouette.
On évoquait Bernard Tapie tout à l'heure. Tapie qui aura aussi été chanteur.
C'est de parler à Dieu comme à ses voisins, dire que ça ira mieux même quand tout va bien. C'est de voir le soleil au milieu des nuages et devant un avion, rêver de voyage, réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magie, où tu es géant. Réussir sa vie, c'est traverser un océan sans savoir pourquoi ni pour qui. Simplement, c'est d'être un président ou bien n'importe qui, et de prendre le temps d'aider un ami. C'est de gagner en bourse comme on jouait tout bille, et de finir sa course le soir en famille. Réussir sa vie, c'est d'abord choisir, c'est d'avoir envie de tout devenir. C'est prendre la main d'un enfant, le cœur d'une femme qui te sourit, à l'aventure infiniment.
Réussir ma vie, Bernard Tapie. Vous en êtes où, vous, Pierre Ménès, de votre projet de vie?
Je voulais me marier en juin dernier, donc le fait que je ne l'ai pas fait n'a rien à voir avec les événements. Hein,
ouais.
Mais parce que je ne voulais pas d'un bal masqué. Donc ça a été repoussé en juin prochain, donc j'espère que cette fois-ci, parce que je vais pas me marier en fauteuil roulant non plus, c'est ça. Et puis on a une maison magnifique, où on est en train de faire des gros travaux dedans, donc profiter de ma maison, et puis m'éclater avec ma plateforme, parce que c'est un objectif pour moi. J'ai eu quelques touches avec des médias plus classiques et évidemment plus puissants, auxquels j'ai pas donné suite parce que je suis vraiment très concentré sur cette plateforme.
Ouais.
Je veux que ça marche. Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis un commerçant. Moi, je veux que ça marche.
Et vous diriez que vous l'avez réussi votre vie à date aujourd'hui?
Oui, parce que rien ne me prédestinait à devenir ce que je suis devenu. Et même ce que je vis depuis quelques mois n'est que la conséquence de ma notoriété. Mélissa me dit souvent, et elle a raison, que j'ai pas conscience de ma notoriété.
Et même si vous ne vous sentez pas coupable de tout ce qu'on vous reproche? Est-ce que finalement, puisque des gens et des femmes sont sentis blessés, le plus simple serait pas de leur dire pardon, de vous excuser?
Alors, je l'ai fait. Je l'ai fait sur Twitter. Je l'ai fait individuellement. Voilà, qu'est-ce que je peux faire de plus?
Le refaire? Pour qu'on l'entende?
Non.
Pourquoi?
Parce que, non, je l'ai fait. Je vais pas me flageller. Je l'ai fait publiquement, je l'ai fait individuellement et en privé, ça suffit. Ça suffit, j'ai tué personne.
Merci beaucoup Pierre Ménès d'être venu faire du hors-piste avec nous ce soir. On vous retrouvera très vite à partir de mardi le 12 octobre dans Pierrot le foot, PLF. Merci aussi à Marie Mériel à la réalisation, Charlotte Leloup à la préparation, Claire Tesser à la mémoire vive et Lucas Derode qui était aux manettes ce soir. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h et c'est une immense sportive, Amélie Mauresmo, qui sera avec nous. Dans hors-piste, le dernier mot revient toujours à l'invité, c'est la règle. C'est donc à vous Pierre Ménès.
Et pas si laide la vie.
Merci et très bonne soirée.